Gérard Philips naît en 1889 en Belgique. Ordonné prêtre pour le diocèse de Liège, il s'engage dans l'action catholique. Plus tard, il participera notamment à l'organisation du Congrès international pour l'apostolat des laïcs, qui a lieu à Rome en 1957. Mais ce qui lui vaut surtout la reconnaissance de l'Église, c'est le travail acharné qu'il a fourni au moment du Concile Vatican II. Pour nous parler de ce théologien belge, le père Léo Desclercq, prêtre du diocèse de Bruges. À l'époque du Concile, il était vice-recteur du Collège belge à Rome. À ce titre, il a bien connu de nombreux experts du Concile, et plus particulièrement Mgr Philips. Il nous le présente.
Mgr Philips était vraiment un homme extraordinaire. Il avait reçu une double formation. Une formation à Rome, comme étudiant à la Grégorienne, dans les années 20. Donc il connaissait très bien la théologie scolastique, la théologie classique. Mais en même temps, en 1944, il a été nommé professeur à l'Université de Louvain. Et là, il a approfondi l'exégèse biblique avec l'exégèse scientifique. Il a appris les méthodes historiques de la recherche théologique. Et il a aussi connu alors ce qu'on appelait la nouvelle théologie, avec des protagonistes comme de Lubac et un peu Raner.
Mais cette double formation théologique n'a pas non plus fait du théologien un savant en chambre, comme l'explique le père Desclercq. Car Mgr Philips, qui a connu l'action catholique où il s'était engagé comme jeune prêtre, a également eu une autre expérience singulière.
Il a été sénateur de Belgique de 1953 à 1968. Il était coopté par le Parti démocrate chrétien. Et cette fonction lui a grandement ouvert des horizons, notamment pour les questions sociales. Cette expérience de parlementaire lui a été particulièrement utile pour son travail à Vatican II. C'est au Sénat qu'il a appris comment rédiger un projet de loi, comment le faire approuver par une majorité, comment intégrer des amendements et aussi comment tenir compte de la minorité sans jamais l'humilier. Il me disait un jour, il ne faut jamais humilier la minorité parce que demain, en politique, vous pouvez avoir besoin d'elle.
Des expériences qui lui serviront donc, notamment dans le cadre des débats autour de la constitution dogmatique sur l'Église. Alors qu'un premier schéma avait été proposé aux évêques, le cardinal Suenens demande à Mgr Philips, expert au Concile, de préparer un nouveau texte de travail, qui sera ensuite accepté par les pères conciliaires lors de la seconde session. Le théologien belge a aussi été élu secrétaire adjoint de la commission doctrinale dès décembre 1963, après cette seconde session.
À partir de la deuxième intercession, c'est lui qui pratiquement dirige les débats de la commission doctrinale. Il est devenu le rédacteur principal de la Constitution sur l'Église, Lumen Gentium, mais il a été également le rédacteur final de la Constitution Dei Verbum sur la révélation chrétienne, où il est parvenu à trouver avec beaucoup de diplomatie des formules qui finalement ont contenté tout le monde. Pour la Constitution pastorale sur l'Église dans le monde moderne, Gaudium et Spes, il a travaillé en étroite collaboration avec le secrétaire de rédaction français, le chanoine Hauptmann. C'est Philips qui a traduit tous les textes Hauptmann en latin. Il réussit à faire approuver les textes en un temps record. C'est à ce moment-là que le père de Lubac écrit dans ses carnets du Concile « Philips noie tout de passion, mais admirablement ».
Ce travail sur le texte qui deviendra Lumen Gentium se base sur une triple ligne de conduite.
Premièrement, le texte devait être plus biblique, plus patrologique et plus pastoral. Deuxièmement, il devait résulter d'un groupe international de théologiens. Dès le début, donc, il a adressé une invitation à collaborer à Congar, à Rahner, à Ratzinger, à Schellebeck, à Colombo de Milan. Et troisièmement, il fallait conserver autant que possible des éléments du schéma préparatoire, notamment pour ne pas froisser inutilement les membres de la commission préparatoire.
Après la seconde session et le débat sur le texte De Ecclesia qu'il avait proposé, Mgr Philips a mis en place 7 sous-commissions d'experts pour améliorer son projet. Il a ainsi réussi à introduire la problématique de la collégialité dans le document, ainsi qu'à trouver un compromis sur le chapitre concernant la Vierge Marie.
Pendant la troisième session, le texte remanié sur l'Église a été soumis au vote des pairs et plus de 15 000 amendements ont été introduits, une masse énorme. Et c'est Philips qui a organisé le travail immense de discuter tous ces amendements en la commission dans un temps record vraiment de 6 semaines.
Même s'il avait un rôle central, le théologien belge, tout en préservant l'efficacité de ses équipes, cherchait à travailler avec un maximum de personnes pour ne laisser aucune des parties, progressistes ou conservateurs, de côté.
Vu sa fonction centrale à la commission doctrinale, il a évidemment travaillé avec beaucoup de monde. Et en premier lieu, bien sûr, avec les évêques et théologiens belges qui logeaient avec lui au collège belge. On a parlé de la squadra belga, l'équipe belge. C'était Monseigneur Charus, les théologiens Meller, Cerfaux, Tils et Pignon, etc. En ce qui concerne les Français, notons les relations excellentes qu'il avait avec le père Congar. Le père Congar, pendant les trois intercessions, a logé au collège belge pour pouvoir mieux travailler avec l'équipe belge. Mais Philippe avait aussi de bonnes relations avec les hommes de la tendance, disons, plus conservatrice. D'abord avec les cardinaux Ottaviani du Saint-Office et Brown, avec Monseigneur Parente, assesseur du Saint-Office, avec le père Trump, néerlandais, qui était secrétaire de la commission doctrinale. Ce qui facilitait le contact avec le père Trump, c'est qu'ils parlaient ensemble le néerlandais et qu'ils fumaient ensemble parfois un bon cigare hollandais.
Suite à des problèmes cardiaques, Monseigneur Philips devra interrompre ses travaux pour le Concile. Ce qui ne l'empêchera pas, cependant, quelques années plus tard, d'écrire un commentaire de 800 pages sur Lumen Gentium pour en permettre une interprétation plus exacte. Nommé sénateur émérite en 1968 et professeur émérite un an plus tard, il s'éteindra en 1972. Mais le père Léo Desclercq garde toujours des souvenirs émus de Monseigneur Philips.
D'abord, sa piété est un homme très pieux, qui négligeait jamais sa méditation, qui lisait tous les jours son chapelet, et puis son calme et son esprit de réconciliation. Il ne se fassait jamais, ou presque jamais. Il était bon avec tout le monde, mais aussi quand même sa sagesse doctrinale. Il voulait la paix, mais pas à tout prix. Il ne défendait que ce qui lui semblait exact et juste.